Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'épopée des ouvriers de Continental en 2009, plus connue sous l'appellation de Conti. L'une des mobilisations ouvrières les plus importantes de ces dernières années, l'un des symboles du prix humain de la crise. Avant cet événement, la crise de 2008, quelqu'un a dit « Aujourd'hui en France, quand il y a une grève, on ne s'en aperçoit plus ». L'année 2009 donnera tort à ces fantasmes de fin de lutte sociale. Tout au long de cette année, des ouvriers, des salariés, des étudiants se mobilisent contre les licenciements et aux réformes. Chaque jour, on annonce la fermeture d'une entreprise. Après la non-reconduction des intérimaires, ce sont les ouvriers, les salariés qui paient les effets de la crise. Fermeture, retraite anticipée, négociation de départ, congé de reconversion, pôle emploi, autant de mots qui traduisent le quotidien de millions de Français. La lutte des Conti a été une révolte longue, opiniâtre, syndicale, populaire et radicale. 4 mois de conflits ponctués d'assemblées générales, de manifestations, de rencontres, de colères cathodiques parfois, de longues négociations toujours, puis d'une fermeture inéluctable. Aujourd'hui, si les marchés financiers et les actionnaires se portent mieux, les gens de Continental, eux, sont encore, pour certains, sans travail. Alors, leur mobilisation se poursuit. Anaëlle Verzo est allée à leur rencontre il y a quelques jours pour Affaires Sensibles. Nous entendrons son reportage. En seconde partie, nous recevrons Philippe Poutou, ancien candidat à la présidentielle pour le NPA, nouveau parti anticapitaliste. Il vit et travaille désormais à Bordeaux comme ouvrier à l'usine Ford. Il en est, depuis l'année 2000, représentant CGT du personnel. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot, avec l'appui des documentalistes de Radio France et de l'INA, attachée de production Léa Dupouy-Henquin, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Thierry Dupin, réalisation Jérôme Chélius et Coyen Guyen, à la technique aujourd'hui Aveline Carmois, Kevin Pelot.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Été 2008. Depuis un an, les Français vivent au rythme effréné du nouveau locataire de l'Élysée, Nicolas Sarkozy. Lors de la campagne présidentielle, le candidat de l'UMP avait promis de renverser la table, de réveiller cette belle endormie que serait devenue la France. L'un de ses chevaux de bataille, c'était la fin du dogme des 35 heures, vestige des années socialistes et tête de turc des économistes politiques et philosophes de droite. En 2007, pour le candidat Nicolas Sarkozy, la réforme de Martine Aubry est le principal. Pas le problème.
Eh bien moi, je pense qu'il y a un problème. Ce problème, il est le suivant. Il faut garder les 35 heures comme durée hebdomadaire, mais il faut laisser, dans le privé comme dans le public, ceux qui veulent travailler plus pour gagner plus, le faire. L'absurdité des 35 heures, c'est d'empêcher les gens de travailler.
Travailler plus pour gagner plus. C'est avec ce slogan, entre autres, que Nicolas Sarkozy est élu en 2007, y compris par de nombreux ouvriers qui se laissent tenter par la formule. Quelques mois après l'élection, chez Continental, quatrième fabricant mondial de pneumatiques, on imagine ce monde nouveau en France. Car de l'autre côté du Rhin, chez les ouvriers allemands, depuis 2004, on a accepté d'augmenter le temps de travail sans contrepartie salariale, seulement une garantie de l'emploi. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, les choses changent aussi. La flexibilité devient la règle et les ouvriers la variable d'ajustement des résultats de l'entreprise. En septembre 2007 à Clairoy, puis en décembre de la même année à Sarreguemines, les salariés des 2 usines françaises de Continental sont invités à se prononcer sur un rallongement du temps de travail, mais avec des contreparties salariales. Alors, bon gré, mal gré, pour ne pas perdre leurs emplois, une majorité d'entre eux acceptent les nouvelles règles de l'entreprise et votent pour le retour des 40 heures. Quelques mois plus tard, Louis Forzi, directeur de Continental Clairoy, se félicite de la nouvelle philosophie de son entreprise.
Comme tout changement d'organisation, il est valable pour le temps dans lequel l'organisation est efficace. Si demain, demain je ne souhaite pas, mais dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, afin de nous adapter encore mieux à la compétitivité, nous devons de nouveau changer d'organisation. Il y aura un travail à nouveau qui sera lancé pour y arriver d'une façon correcte et positive pour tout le monde.
L'adaptation à la compétitivité devient l'adage des temps modernes, ceux de la globalisation de l'économie et de l'industrie. Mais à l'automne 2008, les bourses s'effondrent. La crise des subprimes venue d'Amérique provoque la faillite de plusieurs banques, dont l'américaine Lehman Brothers, bien sûr, en septembre 2008. C'est le déclenchement de la crise financière. Les marchés mondiaux s'écroulent et l'industrie de l'automobile est l'une des premières victimes de cette crise. L'action de Continental chute. L'une des premières victimes de la crise financière, c'est bien Nel. Maria Elisabeth Scheffler, la nouvelle patronne de Continental, vient de réaliser la pire affaire de sa vie. Durant l'été 2008, et par le truchement d'une opération financière type LBO, Schaeffler, l'un des leaders des roulements à billes, prend le contrôle du géant pneumatique. Bientôt, les salariés paieront le prix de cette nouvelle histoire de la grenouille qui se voulait plus grosse que le bœuf. Alors au début de l'année 2009, des deux côtés du Rhin, chaque matin, inquiet pour l'avenir, on enfile l'uniforme, la combinaison ou la veste longue noire à liseré jaune, signée et siglée Continental. Qui devra payer la chute des marchés ? À Clairoy, commune de l'Oise, il y a deux monuments. Le Clos de la Ronde, ancienne maison du père d'Alexis de Tocqueville, et l'usine de Continental, installée aux abords de la bourgade, sur 18 hectares. La Ronde, la petite rivière du coin, longe la ville. Elle fait partie du décor, comme la grande cheminée où est inscrit le nom de l'équipementier allemand. On aime la fixer du haut des vestiaires, on apprécie son silence, le temps d'une cigarette, avant de retourner dans le chaos des machines à caoutchouc, la fabrique des pneus. Dans l'usine, ils sont 1120 ouvriers à se relayer jour et nuit, 7 jours sur 7. Et ce 11 mars 2009, ce sont autant de téléphones qui sonnent aux quatre coins du Compiègnois. Les chefs d'équipe viennent d'annoncer une réunion générale sans plus d'explications. À 12h45, le couperet tombe. Continental annonce la fermeture de deux sites, l'un en Allemagne et l'autre en France, ici, à Clairoy. C'est la douche froide pour les salariés de l'usine Picard. Le soir même, un homme encore inconnu, délégué syndical à la CGT du nom de Xavier Mathieu, témoigne pour la première fois sur les ondes de France Inter.
Tout le monde a les boules, quoi. Parce qu'on va se retrouver au chômage, il n'y a pas de boulot, parce que c'est une usine de 1200 personnes, c'est 3000, 5000 personnes dans le Compiègnois qui vivent de cette usine. Ils nous prennent pour des cons, ils vous annoncent la fermeture du site en 2010 et ils vous demandent de continuer à bosser, de comprendre les actionnaires, il faut qu'on essaye de les comprendre, mais vous vous rendez compte ? Ces mecs-là, ils nous respectent pas, quoi. Il y a 27 millions de bénéfices. Ça va servir aux actionnaires et au groupe. Franchement, les gens, ils ont la haine. On va bloquer tout ce qui est à bloquer, voie ferrée, pont. On va foutre la merde. Il faut que les politiques, je vais vous dire un truc, moi, les politiques, là, qui se gargarisent depuis quelques semaines, là, qui viennent nous voir, faut aider les Clairois. Vous savez comment ils vont nous aider ? On va foutre tellement le bordel que les politiques, ils vont aller voir les Continentales et puis ils vont leur dire « faut payer parce qu'on en a marre des Continentales ». On va foutre la merde, parce qu'on a tous la haine.
Xavier Mathieu est entré chez Continental en 1988. Il a déjà passé la moitié de sa vie dans cette usine. Avec ses copains, ce soir-là, ils occupent l'établissement et refusent de reprendre le chemin du travail. Les pneus, le fruit de leur travail, leur fierté, deviennent des brasiers. Oui, des brasiers qu'on enflamme devant l'usine. Toute la petite ville de Clairoy est de passage ce 11 mars. Pour la plupart, les ouvriers ont des amis, des cousins, des parents, des fils qui vivent grâce à l'usine. C'est tout un équilibre qui est remis en cause ce jour-là. Et pendant que l'on se réchauffe près du bras zéro, Werner Trinken, vice-président du groupe Continental, explique en anglais et sur France 3 les raisons de la fermeture de l'usine.
Alors je pense qu'il faut regarder la situation de près à Clairoy. Le problème avec ce site, c'est que c'est vraiment le coût unitaire par pneu le plus élevé dans notre parc. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons investi 44 millions d'euros visant à améliorer la structure de coût du site. Et vous avez raison, effectivement, les employés ont consenti beaucoup d'efforts en la matière. En 2007, ils ont opté pour le travail hebdomadaire de 40 heures, mais ça s'inscrit dans un environnement très différent, j'entends, la pénurie de pneus sur le marché, donc on sortait beaucoup de pneus, mais à cette époque c'était très salutaire. Et en 2005, nous avons réalisé la même chose dans les sites allemands, et cela ne s'est révélé pas assez pour récupérer notre situation en matière de coûts et de réajuster notre structure de coûts.
Oui, mais la vie des salariés est indexée aux chiffres implacables d'une direction. On parle de surcapacité, de renversement des marchés, de la chute des cours, et on oublie dans le même temps les bénéfices passés, près de 638 millions pour l'année 2008, dont 11 à Clairoy. La crise inattendue, inexplicable est là. On l'entend chaque jour sur nos antennes, et l'on répète aux salariés, que voulez-vous, c'est la crise. Face à elle, les dirigeants des grandes industries jouent la carte de la fermeture des usines trop chères et prennent la fuite vers l'Est ou le Sud, là où le code du travail et les rémunérations ne posent pas de problème. On appelle ça la délocalisation. Comme en Roumanie, à Timișoara, où le géant allemand produit en 2008 plus de 12 millions de pneus et continue à embaucher. Le coût de production d'un pneu est de 12 euros à Clairoy, il est de 5,30 euros en Roumanie. Tout est dit. De nouvelles machines feront bientôt leurs arrivées à Timișoara, promesse de nouveaux emplois et de carnets de commandes pleins. Sourire des salariés là-bas, larmes ici. Satisfaction des actionnaires partout. Mais ces travailleurs ne le savent pas encore. Chacun dans leur pays ne sont qu'une variable parmi d'autres sur le tableau Excel des actionnaires. En vérité, le coût de production d'un pneu n'est qu'un élément de la restructuration plus générale de l'entreprise. Le lendemain, quand Louis Forzi, directeur de Continental Clairoy, heureux il y a quelques mois d'avoir signé avec ses ouvriers l'accord des 40 heures, arrive dans le hangar, c'est l'explosion. Sur une petite estrade installée près des stocks de pneus, le directeur est accueilli par les colibés. Il est sifflé. Puis ce sont les œufs qui concluent sa tentative de prise de parole. Après les directeurs séquestrés, les œufs de Clairoy font le tour des rédactions, comme les déclarations des ouvriers, prêts à suivre la voie tracée par des manifestants de Guadeloupe qui bloquent l'île depuis plusieurs semaines.
On voulait lui poser la question, on avait des questions à lui poser importantes.
Ça fait 28 ans que je suis ici, ça fait 28 ans que je fais que des efforts contre Continental. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, moi je suis outré.
Nous affirmons le refus de la fermeture du site de Continental.
À Clairoy, la lutte commence. Après chaque fermeture d'usine, à l'assemblée devant les mairies, les élus du coin et les ministres en charge du dossier se renvoient la balle et promettent l'un et l'autre de ne pas abandonner les salariés. En attendant, c'est à l'intérieur de l'usine qu'on s'organise pour lutter contre cette fermeture. Alors un comité est mis en place. Il est ouvert à tous, délégués du personnel comme simples ouvriers. La mobilisation sera collective et indépendante des centrales nationales syndicales. Dans ces moments-là, on rappelle les anciens, des amis qui ont milité lors de mouvements il y a longtemps, ou pas très longtemps, en tout cas dans la région. Roland Spirko fait partie de cela. Il était l'un des meneurs de la lutte de l'équipement chausson en 1995. À Clairoy, on écoute les anciens, les retraités, un peu comme on consulte les sages. Ensemble, ils s'organisent, apprennent les codes de la mobilisation, ses tempos, les moyens d'action. Ils récoltent le maximum d'informations, lancent les premières procédures de recours en justice, communiquent chaque jour pour faire pression sur l'industriel et sur l'État. Le 19 mars, ils sont déjà plus de 15 000 à battre le pavé à Compiègne. Le 25 mars, c'est à Paris qu'ils défilent, autour de l'Élysée.
C'est pas le gouvernement qui bouge, qui nous soutient et qui fasse quelque chose, parce qu'il y en a marre de ces usines qui ferment, de ces plans sociaux.
Qu'est-ce que vous attendez de lui, président?
Bah, qu'il gêne le plan social, déjà. Et après, s'il peut pas, et ben, que les dirigeants allemands donnent la cagnotte.
C'est toute une vallée qui défile ce jour-là. À Compiègne, tous ont peur du krach social. Le gouvernement, lui, préfère jouer la montre et laisser pourrir le mouvement classique. Les meetings et les manifestations de soutien s'organisent dans toute la France. Le 7 avril, des représentants du comité de lutte ont rendez-vous avec Philippe Gustin, directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État à l'industrie, Luc Châtel, en charge du dossier. Aucune annonce n'en ressort, rien sur leur demande de réunion tripartite entre eux, l'État et Continental. Et le 21 avril, jour du jugement concernant le recours sur le plan de licenciement, la tension est à son comble. Si la réponse du tribunal de grande instance est négative, les premières lettres de licenciement seront envoyées 28 jours plus tard. Il décide alors d'occuper la sous-préfecture de Compiègne pour rappeler à l'État les promesses passées. Et à 15h30, dans un bureau de la sous-préfecture, Xavier Mathieu reçoit, devant les caméras et les micros de toutes les rédactions, le coup de téléphone tant attendu.
Et alors ? C'est pas vrai.
On est déboutés, les gars. Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines. La direction, elle a gagné.
Le soir même, la colère de ces ouvriers de Continental fait l'ouverture de tous les journaux. Cette violence exercée contre quelques ordinateurs et imprimantes n'est rien face à celle quotidienne, rongeuse, que subissent depuis plus d'un mois ces ouvriers. Quelques heures plus tard, Xavier Mathieu fait face aux caméras et aux questions de David Pujadas.
Je ne regrette rien, personne ne regrette rien ici, parce que vous avez vu, vous n'avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui ne veulent pas aller se faire démonter. Crever, on ne veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines. Pendant 5 semaines, j'ai réussi, on a réussi à retenir les gens. C'est fini, les gens, ils n'en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses. Il s'était engagé à réunir une tripartie qu'on demande depuis le début, dans les 3 jours. Ça fait une semaine que ça dure.
Xavier Mathieu,
aujourd'hui, on se rend compte.
On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir ?
Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Qui sème la misère récolte la colère, c'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça.
Merci, monsieur Mathieu.
On ne veut pas crever.
Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous.
Ce 21 avril, Xavier Mathieu devient l'icône d'une lutte, comme Charles Piaget en son temps chez l'Élipe de Besançon. Il ne regrette rien, répond fièrement aux questions du journaliste du 20h, qui accueille rarement, il faut bien dire, un ouvrier pour sa grand-messe. Après son entretien avec Xavier Mathieu, David Pujadas annonce que Luc Châtel, secrétaire à l'industrie, accepte le principe de cette fameuse réunion tripartite. Elle est prête à se répandre, à fracasser le silence, elle sait comment se faire entendre. Elle me transit l'effroi, très vite je ne sens plus mes membres. Je tremble, confus, impossible de me détendre. Je m'abandonne dans les méandres de ses reflux. Je ne suis plus que l'ombre de moi-même depuis notre entrevue. Je ne connaîtrai le repos qu'une fois son appétit repu. Enfin je cherche le repli, mais je n'essuie que des refus. À chaque fois qu'elle revient, c'est pour faire pencher la balance. Quand plus rien ne me retient, quand je subis son influence. La science de la furie, l'art de la guerre réveille tous mes démons. Si je l'écoute, si je coopère, mais si je la contiens, si je la domine, si j'en fais mon allié caché sous ma poitrine. C'est fou la force qui se dégage de ses remous quand elle est légitime et que l'agneau défie le loup. Elle attend son heure tapis au plus profond de mon âme. Son visage se reflète dans chacune de mes larmes. Elle se nourrit de peine, de stress et de frustration et coagule lentement sous mon crâne jusqu'à l'éruption. Elle me talonne, s'imprègne de tout ce qui l'environne. C'est la patronne du côté sombre, jamais elle ne pardonne. La mémoire pleine, elle aime le goût de la revanche. Saisit les règles de mes neurones, si par malheur ma raison flanche. Et plus je la refoule, plus je sens qu'elle devient folle. Me triture l'encéphale pour enfin prendre la parole. Et là, plus rien n'est drôle, non plus rien ne paraît frivole. Elle ouvre la gueule et plus personne ne rigole.
Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sargumine, la direction à laquelle on est.
Éclate au grand jour et donne le change de ses sévices. Elle coupe court au long discours et tord le cou de l'injustice. C'est la bête noire qui veut la tête du tortionnaire. Ce plat qui se mange froid, cette hache que je déterre. Affaires sensibles sur France Inter, aujourd'hui la lutte des Conti. Hanovre, 23 avril. Hanovre, Allemagne. C'est le choix de l'imagination et de la surprise. Car de l'autre côté du Rhin, ce jour-là, se tient l'Assemblée Générale des Actionnaires de Continental. Grâce aux caisses de grève passées dans toute la France, les salariés de Clairoy négocient avec la SNCF et affrètent un train de 14 wagons pour transporter les 1120 ouvriers de l'usine. Comme la finance, la lutte des salariés se globalise, s'internationalise. Après une nuit de trajet ponctuée de discussions, de parties de cartes, c'est l'arrivée dans la cité industrielle allemande. Une arrivée historique. Ambiance.
Ouais, c'est amical, hein.
La gare est remplie de salariés Continental allemands.
Continental, solidarité. Continental, solidarité.
Allez, tous en même, tous en même, go, go. Allez, tous en même, tous en même, go, go. Allez, tous en même, tous.
Ensemble, zusammen. Allemand, français, peu importe. Aujourd'hui, c'est leurs conditions de travailleurs chez Continental qui les rassemblent. Après l'émotion des premiers regards, ensemble, ils prennent la rue, chantent, discutent de la vie de Conti, de la vie d'un ouvrier dans les deux pays. À la tribune, à plusieurs voix, sous différentes langues, une même colère s'exprime.
Kollegen und Kollegen, nous sommes 3000 aujourd'hui, venus des différents sites de Continental, pour montrer aux actionnaires et au directoire que nous ne nous les laisserons pas fermer les usines sans nous battre.
Nous, les 1120 travailleurs de Clairoy, venus à train spécial, tous rassemblés dans une même colère, dans la même rage de défendre jusqu'au bout nos droits à la vie et ceux de nos familles. Oui, nous avons répondu présent.
Devant la Kuppelsaal, le centre des congrès où se tient l'Assemblée Générale des actionnaires, on demande l'autorisation de lire une motion, et ça marche. Ils obtiennent le droit de s'exprimer, eux, les travailleurs des usines, qui leur rapportent tant d'argent depuis tant d'années aux actionnaires. En entrant dans la salle, ils se retrouvent devant des milliers de petits patrons qui ont chacun un droit plus ou moins fort sur leur vie. La finance, celle qu'on a découverte un jour de septembre 2008, fait alors une rencontre étonnante. Derrière ces petites actions, ces grosses actions, se cachent des hommes et des femmes. À la suite de la motion, certains vont applaudir, sans pourtant autant quitter le navire. Peu importe, cette journée met un peu de baume au cœur, après ces semaines de luttes âpres et violentes, parfois. Même si les nuits sont courtes, hantées par les futures galères, les remboursements des crédits à venir, les difficultés dans les couples, on se souviendra longtemps de cette internationale d'un jour, des Conti, de cette marche commune entre travailleurs allemands et français. Quelques semaines plus tard, au début du mois de mai, la promesse d'une négociation avec les patrons de Continental, seule possibilité pour sortir du conflit, n'est toujours pas honorée. Alors le 6 mai, les gens de Conti décident de frapper là où ça fait mal, un site de production. Alors ils prennent la route, direction Sarreguemines, seconde usine de Continental en France, toujours en activité. Les salariés de ce site, sauvés du dernier plan social, hésitent à les rejoindre dans la cour. Puis, oubliant cette peur d'être eux aussi jetés dans le vide du licenciement, ils arrêtent le travail. À l'abri, mais devant des caméras, les négociations par téléphone s'enclenchent. On passe de la direction de Continental aux représentants de l'État. La tension est palpable. C'est qui tout double, comme le prouve cette séquence du film de Jérôme Paltot, La saga des Conti.
Voilà, on leur montre ce qu'on a dans le froc. On n'est pas rentré. Si jamais il faut aujourd'hui monter d'un cran supplémentaire, dresser, caresser de la côte, alors les gars, le temps fout. Si on abandonne ce soir,
on n'abandonne pas.
C'est mort.
Après plusieurs mois d'attente, ils obtiennent enfin une date. Ce sera le 12 mai à Hanovre. 7 semaines juste pour obtenir un rendez-vous. 7 semaines. Et régler les conditions de leur licenciement. Donc tout reste à faire. Il y aura plusieurs journées de négociations ponctuées de nouvelles manifestations.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, la lutte des Conti. Notre invité que nous retrouverons dans quelques minutes en direct de Bordeaux, c'est Philippe Poutou, l'ancien candidat à la présidentielle au nom du NPA, nouveau parti anticapitaliste. Il est aujourd'hui ouvrier chez Ford à Bordeaux et représentant CGT du personnel. Le 30 mai, Xavier Mathieu annonce le résultat des négociations.
net d'impôts et de charges sociales, 50 000 pour tout le monde.
Jusque là, c'est tous pour un pour tous.
L'Assemblée générale réunie devant l'usine accepte les accords. 50 000 euros de primes dites extra-légales de départ pour chacun des 1120 salariés, des salaires payés à 100% jusqu'en octobre, puis congé de reconversion de 23 mois jusqu'à fin 2010. Pendant ce temps, les comptes de l'entreprise continuent de prospérer. Les ouvriers de Continental, eux, ont juste gagné du temps pour se reconstruire et trouver une nouvelle route dans le chemin sinueux de l'emploi. Le 1er janvier 2010, l'usine est officiellement fermée. Les derniers ouvriers ramassent leurs affaires, trimballent leurs souvenirs d'usine dans de grands sacs poubelles et tournent la page Continental, toujours sous le regard de Jérôme Paletot pour son film « La saga des Conti ».
36 ans de ma vie, tout est là.
On sait que c'est fini, on sait que... on ne reviendra plus. Ça fait bizarre, quoi. Ça fait mal au cœur.
Moi, je te dis franchement, j'étais bien ici. Moi, s'il y avait moyen que ça continue encore, je serais pour ça. Tu sais, l'argent, ça va vite, hein. Toi-même, tu sais, quand tu fais rien, surtout. Encore, ce serait une petite crise. Là, on est en train de vivre une crise que nous, on ne connaît pas. La crise, on ne sait pas ce que c'est, nous. On ne sait pas ce qui va se passer derrière la crise ou ce qui se magouille. On n'en sait jamais rien. C'est chaque génération, c'est toujours la même histoire. On te bourre le crâne avec des excuses bidons et au résultat, comme avant, c'est l'ouvrier qui paye.
On avait tous hâte d'avoir le maximum et puis que ça se termine le plus tôt possible, mais moi j'appréhende que ça se termine tout ça. Cette putain d'histoire humaine qu'on a vécue là. Quelle société de. Il n'y a plus d'humain, il n'y a plus rien, c'est que des chiffres, du fric. On sacrifie tout ça pour. Je me demande comment ces mecs-là ils peuvent se regarder dans les glaces, quoi. Comment ils peuvent se regarder en face, faire du mal aux gens comme ça. Je sais pas. Je saurais pas être à leur place, c'est tout.
Sacrifié. L'odeur du caoutchouc ne se fait plus sentir sur la petite commune de Clairoy. Elle est partie à l'est, en Roumanie, comme les machines. Trois fois par jour, dans la zone industrielle de Timișoara, les bus déposent leur contingent d'ouvriers, puis reviennent 8 heures plus tard, là-bas. On travaille pour 340 à 440 euros par mois. À Clairoy, on ne travaille plus. Depuis la fermeture de l'usine, la crise sociale ne s'est pas interrompue. En 2012, pour l'émission sur les docks, Marine Diffy et Charlotte Bien-Aimé sont allés à la rencontre d'un ancien de Conti, Jean-François.
Bon, ils nous ont filé des indemnités. Mais moi, c'est pas ça que je veux, moi. C'est pas les indemnités. S'il faut leur rendre les indemnités, je les rends. Demain, je les rends. Moi, ce que je veux, c'est retrouver ma dignité de travailleur. Parce que moi, j'ai reçu une lettre recommandée et ils m'ont proposé un poste d'aller travailler en Tunisie pour 137,50 euros par mois. On se fout de nous, quoi. On se moque de nous. C'est pas possible. Et si on se met en colère, on vous dit « Hey, doucement. » Ben non. On a le droit de se révolter. Ma haine, ma violence, ma colère, ça fait un cocktail que, même encore maintenant, ceux qui ont décidé la fermeture de l'usine, ils doivent penser au désastre psychologique et physique qu'ils ont créé là. On travaillait à la chaîne. C'était très dur. Mais comment je peux dire ça? Maintenant, on cherche à aller travailler. Mais on veut plus de nous. On ne veut plus de nous.
Après le jugement des actionnaires, 7 ouvriers ont dû faire face à celui de la justice au sujet des dégradations de la sous-préfecture. Après de longs mois d'attente, ils sont condamnés à verser solidairement à l'État 1 280,53 € de dommages et intérêts et échappent aux peines de prison avec sursis prononcées en première instance. À ces chiffres, on peut ajouter les 253 divorces et les suicides de certains anciens de l'usine. Aujourd'hui, plus de 440 anciens ouvriers de Clairoy sont toujours sans travail, pendant que les autres additionnent les emplois précaires. C'est la seconde vague de la catastrophe, celle qui intervient à la fin des congés mobilité, des allocations chômage, dans notre société post-crise, où l'emploi et les industries s'effacent peu à peu de nos territoires, post-crise de la finance, mais en plein dans la crise économique. Aujourd'hui, les Contis n'ont toujours pas courbé les chines. Il y a quelques jours, la Cour d'appel d'Amiens a invalidé le motif économique invoqué par Continental pour le licenciement de 683 salariés de l'usine de Clairoy. L'usine n'est plus, mais le combat continue.
Bienvenue à tous. La nouvelle était dans l'air. On l'évoquait depuis plusieurs mois, mais son annonce officielle a brusquement modifié le climat social et politique en France. PSA, premier constructeur automobile du pays, annonce donc 8000 suppressions d'emplois.
Il n'y a aucune justification à la fermeture de l'usine d'Aulnay.
Les actionnaires, c'est eux qui nous coûtent cher. C'est eux qui licencient, qui ferment les usines et c'est eux qui ramassent le profit et les bénéfices.
C'est la première fois qu'une usine automobile ferme en France. En 20 ans,
j'ai quand même ma famille, j'ai la maison à payer.
Comprenez cette décision de PSA ou elle vous choque?
Tout est parti d'un document trouvé je ne sais où, parlant d'une usine et d'un avenir sous verrou. Bien sûr qu'il y a malaise quand il parle de reclassement. Écran de fumée aussi dangereux qu'un gaz d'échappement. Fond d'espoir réduit à néant, au rythme de leurs discours bien ficelés culpabilisants. Pendant que le monde tourne comme leur moteur, le nôtre s'effondre au profit de certains saboteurs. Braquage verbal, menteur depuis le début. Notre patron a plus de vis que les dealers de nos rues. La colère monte, y'a trop de mépris et d'arrogance. Nos jobs ont le même horizon qu'un condamné sur la potence. Quand on se tue à la tâche, la fermeture est indélébile. Une cicatrice qui saigne sur de nouveaux bidonvilles. Dans leur annonce, ils parlent du sacrifice. Nous c'est pas de la peau du lion qu'on se souvient mais de ses griffes. Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice. Déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Ça
peut plus durer.
Vous êtes prêts à aller jusqu'où?
On lâche rien.
Jusqu'au bout.
Quand il s'agit d'indemniser, le lion est un rapace. Les émotions s'entrechoquent, on se doit limiter la casse. On mène plus à la baguette ceux à qui on promet des miettes. Y'a trop de contre-jours sur nos enfants qui déforment leur silhouette. Avare, varin, responsable véreux. Il quadruple son salaire et dit que le coût du taf est fiévreux. Aucune usine devrait fermer grâce à l'argent public. L'État ose dire qu'il n'y a pas de secteur privé dans ses rubriques. Y'a de l'inquiétude, menteur d'un jour, menteur toujours. Y'a des larmes et y'a des malaises que n'arrange pas le compte à rebours. On le savait tous, mais c'était pas d'actualité. Et y'a pas plus dangereux qu'un animal qu'on vient de blesser.
Ceux qui fabriquent les gestes, ceux qui fabriquent les profits, c'est pas les actionnaires, c'est nous.
Tristesse, colère, inquiétude, sacrifice, déprime, malaise.
Ça peut plus durer.
Mépris, mensonge, arrogance, actionnaire, escroc, relâchement.
Ça peut plus durer.
Profit, esclave, stress, chômage, pression, flottement.
Ça peut plus durer.
Vous êtes prêts à aller jusqu'où?
On lâche rien.
Jusqu'au bout.
Bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux à propos de la lutte des Contis. Alors, depuis la campagne présidentielle de 2012, on vous connaît bien parce que vous étiez candidat au nom du nouveau parti anticapitaliste. Vous êtes vous-même ouvrier, vous travaillez à l'usine Ford près de Bordeaux et vous êtes secrétaire adjoint de la section CGT. C'est bien cela, hein?
Oui, oui.
Bon. Alors, quand vous entendez ces ouvriers qui parlent, et ce système, cette crise qui fait tant de casse sociale, déjà, quelle est votre réaction?
Ben, ça rappelle déjà des souvenirs. Ce mine de rien, ça fait 4 ans, la lutte des Contis. C'est beaucoup de souvenirs parce qu'il y avait beaucoup d'entreprises en lutte à ce moment-là. Il y avait les licenciements et les fermetures à Contis, mais il y avait aussi les menaces sur Goodyear. Il y avait... New Fabrice du côté de Châtellerault, il y avait l'usine Molex à Villemur du côté de Toulouse.
Voilà, et donc chez Ford, il y avait pas mal de... chez Ford, chez et... vous
C'était comment?
Et chez Ford aussi, il y avait une lutte qu'on avait entamée en 2007. On était en lutte à ce moment-là parce qu'on avait, on n'a pas eu d'annonce de fermeture, on avait des menaces de fermeture. Ford voulait se débarrasser du site. D'ailleurs, on a eu des années très mouvementées. Et on est encore vivant aujourd'hui, mais on a mené une grosse lutte. On revient de très loin. Mais c'est vrai que donc à l'époque, il y avait toutes ces batailles-là. Et puis du coup, on se rendait visite les uns les autres, on se soutenait. On avait même essayé à ce moment-là de coordonner ces batailles et puis de faire en sorte qu'on soit plus fort tous ensemble.
Alors, qu'est-ce qui fait toutefois que la lutte des Conti, il n'y a pas des luttes plus honorables que d'autres, mais enfin, est quand même emblématique, peut-être plus que les autres. Pourquoi? Quels sont les éléments qui font que la lutte des Conti, une fois de plus, est un emblème de cette lutte sociale?
C'est sûr que cette lutte, elle a été emblématique, ça c'est sûr. On était nombreux à... Ça passait au journal de 20h, ça passait dans les médias régulièrement. Il y avait aussi Xavier Mathieu qui était charismatique, donc ça a joué un rôle là-dedans. Et donc on était tous à regarder cette bataille-là. Et cette bataille-là, elle nous donnait confiance, elle nous donnait envie et elle a encouragé pas mal de gens à se battre, je pense. Donc elle a joué un rôle important à l'époque, de la même manière que la défaite des Conti a joué aussi un rôle négatif, dans le sens où ça a démoralisé pas mal et ça a montré que même en se battant très fort comme il le faisait, même en étant très déterminé, eh bien on pouvait perdre un combat. Donc ça a été dur pour nous tous en fait, leur défaite. Mais après, pourquoi c'est les Conti, je sais pas. En tout cas, il y a sûrement plein de choses. C'est une usine qui était fermée. Enfin, il y a eu l'annonce de la fermeture. Il y a eu une résistance, une grosse colère. Je pense que la colère, elle a joué un grand rôle, parce que c'est vrai qu'on a les images de la sous-préfecture où cassent les ordinateurs, hein, où on voit la révolte qui s'exprime. Xavier Mathieu qui dit à Pujadas, non, on ne regrette rien, nous on se défend, on se bat comme on peut, et la violence c'est les autres, c'est les patrons qui l'amènent. Donc voilà, donc tout ça fait qu'il y a eu une bataille très emblématique et on s'en souvient aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un très joli film qui a été fait, hein, vous en avez parlé.
Oui, je l'ai cité deux fois, absolument. Mais il y a la question de l'incarnation, ça a toujours été important, la question de l'incarnation aussi dans les luttes sociales. Je pense à Piaget pour les LIP, bien sûr, à Mathieu pour les Conti. Vous pensez, vous aussi, qu'il faut comme ça une incarnation humaine pour représenter un mouvement et que ça compte?
Je ne sais pas s'il faut. Enfin, en tout cas, il y a des personnages comme ça, il y a des luttes comme ça qui sont marquantes et qui peuvent aider les autres à se battre, qui peuvent montrer en tout cas la voie de la résistance. C'est comme ça et c'est utile, tant mieux. Après, c'est sûr que aujourd'hui, par exemple, il y a encore des batailles, des tentatives de résistance et là, on n'en entend pas parler. Alors, c'est toujours pareil. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Bon, je ne sais pas trop. Mais ce qui est intéressant quand une lutte est emblématique ou quand une lutte est médiatisée comme celle des Conti, c'est ce que derrière ça peut avoir comme conséquence. Et encore une fois, quand il y a des gens qui résistent et quand on en parle, c'est vrai que ça met à l'ordre du jour la lutte sociale, ça montre que c'est possible, ça montre que il y a de la fraternité, il y a de la solidarité et il y a besoin de ça aujourd'hui, quoi. Il y aurait besoin même aujourd'hui d'une lutte emblématique, il y aurait besoin d'un genre d'étendard qui puisse redonner la pêche à des tas de salariés qui ont plutôt tendance à se résigner ou à se démoraliser aujourd'hui.
Alors, dites-moi, puisque vous êtes, Philippe Poutou, puisque vous êtes vous-même représentant syndical, j'ai cru comprendre, on a tous cru comprendre que, entre ceux du terrain, les ouvriers en lutte sur le terrain, et la CGT à Paris, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Bah, c'est incontestable, ça, quand même.
Ah oui, bon. Là, déjà, bah oui, aujourd'hui, ça se voit.
C'est un problème, quand même.
Ben c'est un problème parce que ça, malheureusement, ça affaiblit les résistances. Et c'est vrai qu'en justement en 2009, à cette époque-là, il y avait se posait le problème de coordonner les luttes de Goodyear, de Conti. Il y avait la SBFM aussi, je crois que j'ai pas cité, du côté de Lorient, une fonderie. Il y avait les fonderies du Poitou. Enfin, toutes ces bagarres-là, il y avait la possibilité certainement à un moment donné d'aider à ce qu'on résiste ensemble, de faire des grosses manifestations nationales ensemble contre les licenciements, pour stopper les licenciements. Et ça, de ce côté-là, malgré la détermination d'équipes syndicales partout, ça a été gâché parce que les confédérations syndicales n'ont pas été à la hauteur du tout et elles n'ont pas du tout aidé à ce que ça se fasse. Donc oui, il y a une déconnexion réelle entre les directions syndicales et tous ces militants qui se sont battus, qui ont essayé de sauver leur emploi.
Philippe Poutou, quand vous rencontrez des actionnaires, on l'a dit, hein, derrière les actions dont dépend de la vie des ouvriers, il y a des hommes, puis il y a des femmes, ils ne sont pas tous forcément inhumains, mais ils sont conscients quand même de porter cette responsabilité-là. Comment ils l'expriment, comment ils se comportent quand on voit ces gens-là? Ça vous est arrivé, j'imagine?
Rencontrer les actionnaires, non, je crois pas. Les actionnaires de Ford, on les a pas rencontrés, mais on rencontre des dirigeants haut placés de Ford ou d'ailleurs. Ben après, c'est pas un problème d'individu. On peut toujours penser qu'ils ont un cœur, que quelque part ils sont des bons pères de famille ou des peu importe finalement. C'est un système. Quand il y a un système économique qui est révoltant, qui est écœurant, parce qu'en fait, ce qui compte, c'est le profit, c'est le dividende, c'est la rentabilité, la course au profit, et jamais, à aucun moment, ce qui compte, c'est à la fois les salariés et les besoins des populations. Donc là, il y a un système qui est à combattre, et voilà, c'est le problème qu'il y a aujourd'hui. D'ailleurs, c'est qu'on nous met on nous bourre le mou dans la tête en permanence sur cette idée qu'il faudrait accepter qu'il y a pas de il y a des règles économiques qu'on peut pas changer.
Bien sûr.
Donc il faut subir. Et c'est ça c'est pour ça que c'est vraiment un problème de système. Alors après, il y a des gens qui défendent ce système, et puis il y a des gens qui le subissent. Et donc voilà, le problème en tout cas, c'est aujourd'hui, à mon avis, c'est qu'il y a une bataille sociale qui redémarre, où tous ceux qui en sont victimes se battent et renversent ce système-là, et enlèvent en tout cas le pouvoir à tous les possédants et à tous ceux qui sont responsables de la misère aujourd'hui et de la crise.
Alors, vous savez qu'aujourd'hui, chez les Conti, le comité de lutte a repris la route des tribunaux. Il conteste le caractère économique des licenciements. On reparlera de ça, des licenciements économiques, des licenciements préventifs aussi. Alors, le 5 décembre dernier, une assemblée générale se tenait devant l'ancienne usine Continentale à Clairoy, et notre reporter, Anaël Verzeau, y était pour Affaires Sensibles.
L'Assemblée Générale est à 18h.
Oui, l'Assemblée Générale est à 18h. Là, je pense que les gens vont essayer d'être à l'heure. Puis comme on est en hiver et que la nuit tombe tôt...
Il fait déjà nuit. Donc là, on est dans l'Oise. Hein.
Oui, et il fait froid.
Ouais. Et on est avec l'avocate des Conti.
Marie-Laure Dufresne-Casté.
Ce qui s'est passé, c'est que Continental a licencié 1113 ouvriers en 2009, alors même que Continental faisait des bénéfices.
C'est aujourd'hui, actuellement, la vérité judiciaire, en l'état. Il n'existait pas de motif économique au licenciement des salariés de Continental. C'est un véritable scandale que d'avoir fermé le site de Clairoy. C'est en réalité le fruit de la stratégie du groupe qui transfère les volumes d'activité vers Timisoara, vers les pays à bas coût, ce qu'on appelle les pays low cost. Nous avons démontré quelle était la politique de Continental et que ces licenciements étaient le fruit d'une politique délibérée et non pas des licenciements auxquels Continental aurait été contrainte.
Vous avez remporté toutes les procédures judiciaires jusqu'à maintenant, sauf que là, il y a un pourvoi en cassation.
Continental, en formant son pourvoi, semble estimer qu'elle n'a pas assez fait souffrir ces gens, puisque pour 400 d'entre eux, ils n'ont toujours pas de travail.
Depuis 2009, depuis 5 ans.
Depuis 5 ans.
Oui, merci. Bonjour, Anaël.
Pierre.
Enchanté.
Ah ouais, mais entre nous, ouais.
Il y a au moins 100 personnes hein, sur la place, oh,
oui,
devant l'usine.
Oui, je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Hein. Allez, un peu de bruit, là.
Il y a le train qui passe. Juste devant l'usine.
Ouais, j'entends plus rien, moi.
C'est ici que vous avez fait toutes les luttes, hein?
Ah oui, oui, j'ai raté aucune lutte, moi. J'ai été partout.
Il y avait les bras zéro.
Ah, voilà. Ouais. La nuit, on venait faire le piquet de grève, la nuit, voilà.
Bon, ben, salut à tous les camarades qui sont présents aujourd'hui, là, à l'initiative du comité de lutte. On est super contents de voir autant de monde, ça fait plaisir.
Alors, Continental, ils ont sorti en fin de semaine dernière un communiqué que nous considérons comme scandaleux. Dans ce communiqué, Continental annonce son intention de se porter en cassation contre le jugement qui a été rendu le 30 septembre par la Cour d'appel d'Amiens. La fermeture de l'usine de Clairoy était illégale, non fondée, jamais Continental n'avait connu la moindre perte. Ils avaient au contraire continué à accumuler bénéfice sur bénéfice, profit sur profit.
Le prix de l'action a été multiplié par 20 depuis 2009.
Le prix de l'action de Continental.
Ouais. Passé de 9,20 € à bientôt 200 €. C'est l'entreprise considérée comme la plus rentable d'Allemagne.
Comment vous vous appelez ? Comment vous appelez ?
Monsieur Loire, Jean-Pierre.
D'accord. Vous avez travaillé combien de temps à Continental?
21 ans à Continental. Et puis depuis ce temps-là, j'ai rien trouvé. Aucune petite mission, rien. Alors j'ai même été à Pôle emploi, ma conseillère, j'ai postulé pour aller sur une chaîne. Ma conseillère va me dire, c'est même pas la peine d'y compter, vu votre âge, ils vous prendront pas parce que vous êtes trop âgé.
Vous avez quel âge?
58 pratiquement, donc voilà.
Alors, c'est vous cuit. A répondu, c'est cuit de toute façon.
En intérim, c'est cuit.
Et vous avez encore du chômage ou pas?
Pour l'instant, parce qu'au mois d'avril, après c'est fini. On va tomber dans le gouffre, hein. C'est obligé. Hein.
C'était quoi votre boulot à Continental?
Moi, j'étais contrôleur mistureur, mais je m'occupais des trois gars, quoi. J'étais programmateur.
Il y a quand même une certaine gaieté dans ces situations très difficiles, mais on voit que les gens sont quand même contents de se retrouver.
Les gens sont toujours contents de se retrouver ici. Hein. Chaque fois qu'il y a une réunion, on discute ensemble. Bon, c'est vrai. Alors, en tant qu'on n'a pas vu, donc on discute ensemble. Puis voilà. Ça fait qu'on regagne les bons souvenirs dans le temps.
Les souvenirs de la lutte ou les souvenirs du travail?
Des bons temps qu'on a passé ensemble à travailler. Merci.
Merci. Hein. Au revoir. Bon courage. Il fait froid là, non? Vous n'avez pas froid?
Non, ça va.
Faut vous couvrir.
Et vous, monsieur, vous travaillez aussi à Continental avant?
Oui, pendant 32 ans. Et je fais partie des gens qui touchent la SS.
Allocation de solidarité.
Oui. Je suis arrivé en fin de droit et quand vous êtes arrivé en fin de droit, vous avez l'allocation spécifique de solidarité. Donc la SS, je touche 120 euros par mois. J'ai que 53 ans et puis avec les soucis de santé que j'ai eus, je ne retrouve pas de boulot.
Vous faisiez quoi comme travail à Continental?
J'étais magasinier.
Ils connaissent qu'une chose, le rapport de force. Eh bien, ce que nous vous proposons, c'est de leur demander d'en réviser leur position dans les plus brefs délais, à défaut de quoi nous nous réservons le droit d'agir.
C'est-à-dire poursuivre leur lutte, sans doute en allant en Allemagne, manifester aux côtés des ouvriers continentaux allemands qui se battent en ce moment pour sauver leurs emplois.
Jusqu'au bout, je continuerai jusqu'au bout, je ne lâcherai jamais. S'il faut aller en Allemagne, j'irai en Allemagne. Pas de problème.
Philippe Poutou, l'usine est fermée, le combat continue. Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Mais c'est bien, il faut que ça continue. Après, c'est quand l'emploi est perdu, c'est toujours dommage. Mais là, l'exemple des Conti, mais c'est pas le seul. Il y a aussi du côté de Molex ou encore Goodyear. C'est que après le licenciement, la bataille continue. Et ce qui est dingue, c'est que ils arrivent à gagner au tribunal et à rendre le licenciement injustifié, quoi. Donc ça montre qu'il y a quelque chose qui va pas du tout. C'est pour ça qu'il faut interdire les licenciements, parce que ce qu'on voit, ce que décrit l'avocate, c'est vrai dans plein d'endroits. C'est qu'en fait, le licenciement, il est aucunement justifié. Parce qu'on voit les profits qui continuent, on voit les affaires qui fonctionnent bien. Et la plupart des exemples, c'est ça. Et même encore aujourd'hui, c'est soit, on l'a vu avec PSA, on voit avec Renault, avec Sanofi, on voit du côté d'Unilever avec Fralib, on voit des dividendes distribués par millions, par dizaines de millions, et on voit des justifications de licenciement. Donc il y a quelque chose qui est profondément scandaleux. Et c'est encore une fois tout ce système-là qu'il faut arriver à dégommer. Et après, on voit que la bataille doit continuer pour justement aller au bout de ces luttes-là. Ça pose le problème, encore une fois, d'une lutte d'ensemble pour stopper cette machine infernale.
Alors aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a laissé la place à François Hollande, en fait, depuis 3 ans. Qu'est-ce que la loi de Benoît Hamon change? Vous savez, cette loi qui dit que les salariés doivent être informés 2 mois à l'avance d'un projet de cession. Est-ce que ça change beaucoup de choses?
Non, enfin, à mon avis, ça changera rien du tout. Il y a déjà pas mal de petits trucs qui se mettent en place. Par exemple, il y a aussi au CE, dans le comité d'entreprise, le patron est obligé de donner des chiffres sur les prévisions de production sur les trois années qui viennent, histoire de montrer un peu, enfin, ou en tout cas de clarifier les intentions industrielles des patrons. Mais tout ça, c'est bidon, parce qu'en fait, il n'y a vraiment aucun moyen de contrôle. Donc en fait, nous, le salarié, on est toujours en position de se faire manipuler, mentir, enfin, donc là, aujourd'hui, la seule véritable protection, ce serait l'interdiction du licenciement. Et puis après, c'est le contrôle. C'est le contrôle dans l'économie, dans les comptes, dans les contrôles bancaires. Il faut y mettre le nez dedans. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est d'un côté, donc, il y a des grosses sociétés multinationales qui font des bénéfices énormes, des dividendes qui sont distribués et ça augmente très souvent. Et puis, en même temps, ce sont des aides publiques complètement injustifiées pour les multinationales, donc des millions d'euros distribués. Et puis, quand ce n'est pas des grosses multinationales, c'est souvent des petites boîtes, des filières, filiales, des actionnaires qu'on ne connaît pas trop, qui arrivent à sans rien mettre. C'est l'exemple de Metal Temple, par exemple, en ce moment, à Fumel, dans Lot-et-Garonne. Un actionnaire qui ne met rien du tout, qui arrive à se remplir les poches, on ne sait pas comment. Et tout ça avec la complaisance des pouvoirs publics. Mmh. Et au bout du compte, des salariés qui sont encore menacés de licenciement. Et là, Metal Temple, ils ont fait grève hier. Et aujourd'hui, c'est 133 salariés menacés. Donc il y a tout un système qui est opaque et qui est scandaleux, parce qu'au bout du compte, c'est une machine qui broie, qui vire les gens. Et quand ils ne sont pas virés, c'est les conditions de travail qui sont déplorables bien souvent. Donc voilà. Oui. Donc la lutte, elle doit continuer, oui. Mais après, c'est comment on coordonne tout ça pour résister ensemble.
Alors, Philippe Poutou, on va se retrouver dans 3 minutes à peu près. Vous ne quittez pas, hein, surtout. Oui. En 2009, il se trouve qu'on écoutait parmi quelques tubes Gossip, Harry Cross.
It's a funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete without you.
Philippe Poutou, vous êtes avec nous à Bordeaux pour parler des Contis. Alors, au-delà, on va faire un peu de politique quand même, hein, puisque vous êtes présenté en 2012. Bah, c'était une démarche politique, bien sûr.
Oui, oui.
Alors, à Clairoix, en 2012, pour la présidentielle, c'est Nicolas Sarkozy qui est arrivé en tête lors du premier tour et du second tour. Ça pose question, ça, quand même. Comment vous l'analysez, cela? Les ouvriers ne croient plus à la gauche?
Ah ben là, il y a de quoi avec ce qu'on vit maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Mais oui, non, c'est il y a ben, les scores de Sarkozy ou les scores de l'extrême droite. Ça montre quelque part ben, une désespérance, une démoralisation, une résignation. Quoi. C'est les conséquences d'une crise qui dure depuis très longtemps. Parce qu'en fait, on va vous parler de la crise de 2008-2009. Mais bon, en réalité, on est en crise depuis les années 70. Et puis en fait, le discours sur les licenciements, accepter les licenciements pour demain embaucher ou à faire des profits, ça dure depuis 30 ans, quoi. Donc à force, eh bien, il y a les dégâts, il y a la misère, les gens qui sont au chômage, en précarité, comme vous l'avez dit, ils ne retrouvent pas du boulot, c'est les plans de reconversion, tout ça, c'est bidon. Il y a des emplois qui disparaissent dans les services publics, enfin, il y a des conséquences énormes. Donc du coup, ben, il y a une population ouais, qui est certainement très désabusée, qui en a ras-le-bol, mais ça ne donne pas, aujourd'hui, le problème, c'est que tout ça, ça ne donne pas l'envie de se battre, parce que justement, on n'y croit pas, collectivement. C'est ça qui manque. Donc du coup, quand on n'y croit pas collectivement, quand on ne croit pas à ses propres forces, quand il n'y a plus la solidarité de notre camp social, ben, du coup, ben, voilà, ça part un peu en vrille dans tous les sens. Et je crois que les élections, ça montre ben, que ça ne va pas fort dans la tête de plein de gens. Et il nous manque ça, quoi, ce côté, bon, mais comment, cet espoir pour changer les choses dans le bon sens. Et c'est ça qui pourra déboucher sur des révoltes collectives, sur un mouvement social énorme qu'on souhaite. Mais on n'en est pas là aujourd'hui. Mais en tout cas, nous, on pense qu'il faut le préparer et qu'à un moment donné, ça peut basculer aussi. À un moment donné, il va y avoir une saloperie de plus, de trop, qui permettra de réveiller les gens et puis de se dire, bon, allez, cette fois, on se bat contre ce système capitaliste.
C'est un peu l'idée du grand soir là, que vous développez.
Ben ouais, on peut le dire comme ça, c'est vrai, mais on est tellement en attente de ça que ça peut s'appeler comme ça. D'ailleurs, il y en a qui l'appellent comme ça, mais ceci dit, ça, on sait aussi que ça fonctionne comme ça. C'est qu'il y a des militants aujourd'hui qui résistent, qui essaient de s'organiser au quotidien, et on sait qu'à un moment donné, ça peut changer. Mais en tout cas, c'est parce qu'il y a des gens qui lâchent pas. On n'attend pas le grand soir, en fait, on le prépare. Mais dans l'histoire, ou récente ou ancienne, ben, il y a des moments où les peuples se battent. On a vu avec la Tunisie, l'Égypte, on voit en Grèce, on voit en Belgique aujourd'hui, il y a des sociaux énormes. On voit en Amérique latine. Bon, voilà, il y a des moments où les peuples se mettent en mouvement. Et ben, nous, on espère que du côté de chez nous, ça va le faire aussi. Mais il faut qu'on le prépare parce qu'il n'y a pas le choix. Soit on se fait broyer par la machine capitaliste, soit on renverse ce système-là, on défend nos emplois, nos vies.
Philippe Poutou, une question avec une réponse. En un mot, est-ce que vous serez candidat en 2007? Alors, c'est oui, c'est non, je ne sais pas. Allez-y, choisissez.
Ah ben là, a priori, c'est non. J'espère qu'il y aura.
D'accord.
Mais on n'en est pas du tout à discuter de ça, quoi.
D'accord. Merci. Au revoir Philippe Poutou, merci encore.
Au revoir.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la lutte des Contis, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la disparition de l'avion de la Malaysia Airlines en mars dernier.